Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir au bout du fil Pascale Zonshine. Pascale, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, correspondante pour divers médias en France et au Maroc. Vous couvrez l'actualité d'Israël et du Proche-Orient depuis 20 ans. Et tout d'abord, vu votre expérience, je voudrais vous demander si comme moi et comme la majorité des Israéliens, vous avez été surprise par la victoire de Benjamin Netanyahou le 17 mars dernier.
Ben, ce qui est bien avec la politique israélienne, c'est qu'elle réserve toujours des surprises. Et même au bout de 20 ans et de quelques scrutins, j'ai même renoncé à les compter, on ne peut jamais prédire du résultat et surtout pas aussi de la façon dont les choses vont s'enclencher par la suite. Et c'est vrai que les élections législatives du 17 mars ont encore répondu à cette règle, c'est-à-dire qu'on avait eu l'impression que peut-être cette fois-ci on allait assister à une alternance, le parti travailliste et son alliance avec le parti centriste de Tzipi Livni à Tnoua avait l'air de pouvoir cette fois-ci remporter l'élection, et on a vu Benjamin Netanyahou en vieux briscard de la politique, arriver à remonter son retard littéralement en quelques jours, alors que les sondages creusaient l'écart en faveur des travaillistes, en faveur du bloc de centre-gauche, eh bien le patron du Likoud a réussi à rameuter ses troupes, il a réussi réellement à créer la surprise en arrivant finalement au soir du 17 mars avec 30 sièges pour son parti, ce qui est effectivement une réussite remarquable, et c'est d'ailleurs ce que Benjamin Netanyahu avait demandé depuis l'automne, depuis que la crise parlementaire précédente avait éclaté et conduit à des élections anticipées, en disant un parti de gouvernement, le parti qui prend la tête de la coalition, doit avoir les moyens de gouverner, c'est-à-dire qu'il lui faut un maximum de force, un maximum de sièges. Il n'est pas certain que Benjamin Netanyahou lui-même ait escompté arriver à 30 sièges, mais c'est effectivement une remarquable réussite politique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Cela dit, ça n'est pas non plus une garantie, et on l'a vu puisque les discussions pour former la coalition, dont là aussi on s'attendait à ce qu'elle se règle en quelques jours, finalement ont pris l'intégralité du délai légal dont disposait le chef du gouvernement, à savoir 42 jours, pour arriver finalement à présenter son gouvernement au président de l'État.
Oui, justement, 42 jours de négociations pour déboucher au nouveau gouvernement, au quatrième gouvernement de Netanyahou, le troisième d'affilée. Ces discussions ont été assez âpres et ont réservé leur lot de surprises, n'est-ce pas ?
Absolument. Déjà, le fait qu'on n'ait pas su pratiquement jusqu'au bout pour quelle formule allait opter Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire un gouvernement resserré à droite ou un gouvernement d'union avec en faisant appel à des partis avec lesquels il avait déjà été partenaire dans le gouvernement précédent, ou aussi avec le parti travailliste. Toutes les options étaient ouvertes, bien que à nouveau, techniquement, Benjamin Netanyahou avait la possibilité de boucler cette coalition en l'espace de quelques jours. Les négociations ont traîné. Finalement, le recours vers le centre-gauche n'a pas eu lieu. Mais là où la surprise a été importante, c'est que finalement, à l'intérieur du bloc de droite, les négociations ont été extrêmement dures. Les partenaires naturels, si l'on peut dire, du Likoud, à savoir le parti sioniste religieux à Beit HaYehudi, le foyer juif de Naftali Bennett, dont on estimait que c'était simplement de l'ordre de la formalité de l'intégrer dans la coalition, bien les discussions ont duré, se sont passées finalement assez mal, puisqu'il a fallu attendre là aussi la dernière extrémité pour que le parti de Naftali Bennett rejoigne la coalition. Et puis, vous le disiez, surprise, oui, la surprise de taille, c'est l'autre allié naturel de Benjamin Netanyahou, le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenu, dont on s'attendait là aussi à ce qu'il reprenne sa place automatique à l'intérieur de la coalition. Il y a Avigdor Lieberman qui a décidé de jeter l'éponge et de partir du côté de l'opposition. Et là, je pense effectivement, et on s'en est rendu compte, que ça a été une surprise générale, y compris pour Benjamin Netanyahou, qui ne s'attendait pas à ce coup d'un homme avec lequel les relations n'ont jamais été très simples entre les deux depuis. Il ne faut pas oublier que Avigdor Lieberman avait commencé sa carrière au Likoud avant de fonder un parti russophone qui était censé être justement au départ un peu une antenne pour ramener vers le Likoud ces nouveaux électeurs venus du bloc de l'ancienne Union soviétique, tous ces immigrants du RSS et des républiques soviétiques. Bien finalement, ce parti a pris son propre essor, là aussi avec un certain nombre de rebondissements. Et Avigdor Lieberman, qu'on s'attendait à revoir au ministère des Affaires étrangères, eh bien finalement a déclaré que non, il n'irait pas dans le gouvernement. Donc on se retrouve avec finalement une coalition resserrée à droite, donc la première option qui avait été envisagée, mais pas avec les partenaires qu'on avait pu croire. Et mis à part évidemment les partis orthodoxes qui eux avaient décidé que cette fois-ci il ne serait pas question pour eux de rester dans l'opposition et que quelle que soit la formule de la coalition, ils l'entraient. C'est effectivement ce qui s'est passé avec le parti Sfarad Chas et avec Yadut HaTorah, unité du judaïsme de la Torah, le parti Ashkenaz. Donc les deux partis orthodoxes sont entrés dans la coalition, le foyer juif aussi, et on sait que les relations là non plus ne sont pas évidentes entre le courant sioniste religieux et le courant orthodoxe en Israël. Et puis un nouveau venu, c'est le parti Kulanu, ensemble, le parti de Moshe Kahlon, lui aussi un transfuge du Likoud, qui a fait une percée fulgurante dans le paysage politique israélien et qui prend maintenant le portefeuille des finances. Donc ce gouvernement resserré à droite, sans aucun parti centriste, ni le parti de Yair Lapid, ni le parti de Tzipi, ni bien sûr le parti travailliste, qui ont tous rejoint les bancs d'opposition.
Oui, un gouvernement resserré à droite qui obtiendrait le soutien de 61 députés de la Knesset, c'est-à-dire un député de plus que la majorité, hein, donc 60 plus 1. Ce qui laisse augurer des difficultés, des défis à relever sur le plan interne et sur le plan international, n'est-ce pas ?
Alors, ça n'est pas toujours une mauvaise chose. Un certain nombre de gouvernements, par le passé, dans l'histoire politique d'Israël, ont fonctionné avec une majorité à 61 députés. Ça s'est déjà vu. Simplement, on constate que dès le départ, les relations entre les différents partenaires de la coalition ne sont pas simples, que les enjeux, les défis que vous avez mentionnés exigent aussi une vigilance de tous les instants, que sur certains de ces enjeux, tous ne sont pas d'accord, qu'il faut peut-être aussi compter dans certains cas sur le soutien de l'opposition, voire pas de soutien du tout, et dans ce cas-là, la coalition majoritaire au pouvoir ne peut pas se permettre de voir un seul de ses députés absent de la Knesset au moment d'un vote décisif qui risquerait d'être emporté par l'opposition. Donc là aussi, ça augure d'une gestion au quotidien qui ne sera pas sera probablement pas facile à mener pour Benjamin Netanyahou, considérant évidemment les enjeux de politique intérieure, mais aussi, et bien sûr, ceux de politique extérieure d'Israël. Et on voit depuis maintenant plusieurs mois à quel point là l'horizon s'obscurcit pour Israël.
Oui, la pression est forte. Bon, on a vu récemment le soutien hautement symbolique du Vatican à la création d'un État palestinien, les déclarations récentes d'Obama sur le fait que peut-être il ne serait plus en mesure d'opposer son veto au Conseil de sécurité, et notamment par rapport à l'initiative française menée par Laurent Fabius pour faire avancer les négociations dans un délai de 18 mois, au-delà duquel, en cas d'échec, la France serait amenée à reconnaître unilatéralement l'État palestinien.
Alors, c'est vrai qu'on entre dans, apparemment, une nouvelle configuration diplomatique pour Israël. Une configuration qui, en fait, s'est mise en place au cours des deux années écoulées, c'est-à-dire l'échec du dernier processus diplomatique initié par les États-Unis pour parvenir à un règlement entre Israéliens et Palestiniens. Cette dernière tentative avait échoué par des blocages de part et d'autre, pas seulement d'Israël, mais aussi largement du côté palestinien, parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi une modification stratégique du côté de Mahmoud Abbas, qui a été de décider de remplacer la négociation diplomatique, par l'offensive diplomatique, contourner le processus négocié pour obtenir la reconnaissance de l'État de Palestine par les organisations internationales, par les États, et mettre en quelque sorte Israël devant le fait accompli. Évidemment, une formule dont Israël ne veut pas entendre parler, et le message est constant, le conflit doit être réglé directement par la négociation entre les deux camps. Simplement, le problème, c'est que, de son côté, le Premier ministre israélien ne présente pas d'autre alternative que ce qu'on appelle la gestion du conflit. Et ça met maintenant Israël en porte-à-faux vis-à-vis de ses alliés occidentaux, qui, eux, maintenant, sont de plus en plus réceptifs à la formule palestinienne. Et cette formule palestinienne, qui se traduit aussi par des actes hostiles sur la scène diplomatique, a commencé par l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale, avec les conséquences judiciaires que ça peut avoir pour Israël et pour ses ressortissants qui peuvent se retrouver traduits devant cette juridiction internationale. Donc c'est quelque chose d'extrêmement délicat maintenant. On voit depuis quelques jours une sorte de pont aérien des ministres occidentaux européens des affaires étrangères qui viennent s'enquérir de la situation à Jérusalem et à Ramallah, évidemment pour en tirer des conclusions. Ces conclusions, a priori, ne semblent pas favorables à Israël, d'autant que, pour l'instant, on ne comprend pas très bien non plus qui mène la politique étrangère d'Israël. Benjamin Netanyahou s'est réservé le titre et la responsabilité du portefeuille des affaires étrangères, mais à l'intérieur, ses attributions, elles ont été divisées entre 5 autres ministres. Et au ministère lui-même, les fonctionnaires ont de plus en plus de mal à savoir qui dirige, qui donne les consignes et qui détermine la ligne de la politique étrangère israélienne. Mmh.
Bien, pour terminer, pensez-vous qu'un élargissement du gouvernement serait possible dans un futur plus ou moins proche, notamment un élargissement vers le centre-gauche ?
Alors, c'est évidemment une option qui reste toujours possible. On en avait beaucoup parlé au moment des tractations sur la formation du gouvernement, on en avait parlé aussi pendant la campagne électorale. Maintenant, le sujet a l'air d'être moins pressant, mais selon l'évolution et la rapidité de l'évolution des relations extérieures vis-à-vis des États-Unis, la question aussi, pas seulement du règlement du conflit israélo-palestinien, mais aussi de l'accord des grandes puissances sur le nucléaire iranien, il y a un certain nombre d'enjeux qui pourrait amener le Premier ministre israélien à reconsidérer la possibilité d'ouvrir sa coalition au centre-gauche et plus particulièrement aux travaillistes. La question évidemment est de savoir quand ça se produira, peut-être dans quelques semaines, plus probablement au moins dans quelques mois.
Bien, Pascal Zunshine, merci beaucoup pour votre analyse.
Merci à vous.